dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manirakiza avec vous, la mise en onde Lionel Lunanira Gahima. Une légende à raconter, c'est notre sujet ce soir. Il s'agit d'un livre dédié à toute la jeunesse du monde et plus particulièrement à la jeunesse africaine. Ce livre retrace la vie d'un personnage qui a marqué son époque, disons son centenaire. On parle d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre de l'Éducation et de la Culture du Sénégal, qui a été élu directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987. Dans un instant, nos invités seront avec nous pour vous faire découvrir l'homme et ses œuvres. Nous sommes en ligne avec Souleymane Béchir Diagne, professeur à Columbia University. Béchir Diagne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Mahamadou Lamine Sagna, professeur de sociologie au Worcester Polytechnic Institute dans le Massachusetts, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et bienvenue dans l'Amérique et vous. Lamine, je commence par vous. Vous êtes aux États-Unis, vous consacrez tout un ouvrage à Amadou Makhtar Mbow que vous dédiez à la jeunesse africaine notamment. Je vous écoute.
Je suis très heureux de passer à la voix de l'Amérique, mais vous me mettez dans une position difficile puisque à la mode africaine, c'est le grand frère qui devait parler avant, Bachir. Amadou Makhtar Mbow, je pense que sa trajectoire et ses pensées peuvent inspirer la jeunesse africaine, en tout cas les valeurs qu'il incarne, celles de l'honnêteté, du courage et surtout aussi de l'humilité. Amadou Makhtar Mbow a été de tous les combats du XXe siècle, on peut dire, puisque c'est quelqu'un qui a été élevé et pendant le colonialisme et s'est battu contre le colonialisme. Il a fait la Seconde Guerre mondiale et ensuite il est rentré en Afrique pour aller essayer d'apporter sa contribution, notamment dans des populations qui n'ont pas accès à l'éducation. Sur le plan international, on a vu aussi ces combats qu'il a menés au niveau de l'UNESCO. Donc c'est une figure très importante pour moi, pour la jeunesse africaine, puisque c'est une figure qui représente d'une certaine façon ce qu'on peut attendre de l'universel.
Béchir Diagne, une légende à raconter, vous êtes d'accord aussi?
Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire Lamine Sagna, qui a d'ailleurs publié tout récemment un livre d'entretien avec le président Amadou Makhtar Mbow. Et c'est un ouvrage qui sera très utile, qu'il faut inviter les jeunes à lire pour s'imprégner de l'exemple que représente pour eux cet homme exceptionnel. Exceptionnel par les choix qu'il a faits, exceptionnel par les valeurs qu'il a incarnées et par la manière dont il s'est toujours mis au service d'idéaux les plus élevés qui soient. C'est ainsi que politiquement, quand il a commencé sa carrière, il a d'abord commencé une carrière de professeur, c'est très important de le dire. Après avoir failli devenir mécanicien aviation, il a poursuivi des études d'histoire et de géographie. Il est devenu professeur d'histoire et de géographie dans le secondaire pendant la période coloniale. Là, il a pensé sa mission comme étant justement orientée vers les jeunes. Il avait compris pour lui-même et pour la jeunesse africaine l'importance de l'éducation, l'importance du savoir, l'importance d'acquérir ce savoir en vue du développement de l'Afrique. Et cet aspect des choses, cet idéal qu'il a toujours incarné et qu'il a investi dans les différentes missions qui lui ont été confiées. Quand il a été ministre du président Senghor à l'éducation et à la culture, comme vient de le rappeler Lamine Sagna, quand il a également servi à l'UNESCO pendant longtemps comme fonctionnaire de l'UNESCO avant de devenir directeur général de l'UNESCO, et même après l'UNESCO, au moment où on aurait pu s'attendre à une retraite paisible, la manière dont il s'est engagé en présidant les Assises nationales au Sénégal dans l'œuvre de perfectionnement continu de la démocratie sénégalaise. Voilà pourquoi, effectivement, Lamine a mille fois raison d'indiquer que c'est un homme exceptionnel dont la vie et les valeurs qu'il a incarnées devraient véritablement inspirer les jeunes aujourd'hui.
Un colloque a été organisé pour célébrer les 100 ans de Martin Mbow. Béchir Diagne, vous étiez un des orateurs. Que peut-on retenir de ces assises?
Ça a été un colloque magnifique qui a véritablement dépassé nos espérances. Mes amis et collègues m'avaient confié la présidence du comité scientifique et nous avons pu réunir véritablement les connaisseurs et des intelligences autour de la célébration de ces 100 ans. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'attends avec impatience la publication des actes de ce colloque, parce qu'il y avait tellement de monde qu'on avait très peu de temps, finalement, pour développer les multiples aspects, les multiples facettes de l'œuvre d'Amadou Martin Mbow. Mais la publication d'un volume, heureusement, nous permettra d'aller plus à fond dans les idées qui ont été évoquées à ce moment-là. Ça a été une très belle cérémonie, rehaussé par la présidence d'un certain nombre de chefs d'État africains qui ont voulu saluer en Amadou Martin Mbow l'homme d'État qui a véritablement servi le continent, a marqué la présence du continent dans le monde lorsqu'il a été directeur général de l'UNESCO. Ça a été une cérémonie magnifique qui va se poursuivre d'ailleurs dans les semaines à venir par des webinaires qui permettront une réflexion approfondie sur les aspects de l'œuvre d'Amadou Martin Mbow qui ont pu simplement être évoqués rapidement lors de la célébration du 20 mars.
Votre communication s'est focalisée sur la restitution des biens culturels. Qu'est-ce que vous avez livré au public?
C'était important pour moi de parler du rôle que le président Amadou Martin Mbow a joué lorsqu'en 1978, il a prononcé un discours absolument remarquable sur la signification de la restitution des objets d'art africains à ceux qui les ont créés. Vous savez que cette question de la restitution est revenue sur le tapis aujourd'hui, à une actualité nouvelle. D'ailleurs, l'Allemagne vient de décider de restituer au Nigeria les bronzes du Bénin qu'elle détient. Mais il fallait se souvenir que cette question n'était pas nouvelle et qu'elle n'avait pas été simplement créée par le président français Macron lorsqu'il a décidé de procéder à un certain nombre de restitutions, et que cette question avait trouvé en Amadou Martin Mbow un avocat éloquent, non seulement pour dire qu'il fallait, qu'il était nécessaire, qu'il était de l'ordre de l'éthique de rendre ces objets, mais en soulignant que ces objets n'étaient pas simplement des objets à restituer purement et simplement dans une sorte de jeu à somme nulle, mais que ces objets devaient également pouvoir être des lieux de rencontre entre des cultures, puisqu'il reconnaissait dans ce discours remarquable que ces objets avaient aussi poussé des racines dans leur lieu d'adoption. Et cette idée-là, sur le plan philosophique, me semblait importante, et c'est sur cette idée que j'ai insisté lors de ma présentation.
Lamine, est-ce que vous avez suivi ce colloque? Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas eu lors de votre préparation du livre que vous avez publié?
Non, oui, j'ai suivi le colloque qui était extraordinairement bien fait et heureusement que le professeur Béchir Diagne l'a dirigé et l'a bien mené déjà au niveau de la conception. Pour le comité scientifique, je pense qu'il a balayé tous les grands thèmes, c'est-à-dire Amadou Martin Mbow le visionnaire, Amadou Martin Mbow le citoyen, Amadou Martin Mbow l'éducateur. Et lors de ce colloque, on a remarqué que toutes ces dimensions étaient représentées, en tout cas dans les différentes interventions. Mais aussi, ce que vient de dire Béchir par rapport à la restitution des objets d'art montre effectivement comment il a été visionnaire, non seulement au niveau de ces objets d'art, mais aussi il y a d'autres thèmes qui ont été débattus, comme le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Donc c'était, je l'ai suivi du début presque à la fin, et c'est extraordinaire, y compris les interventions des plus jeunes, des petits-enfants. Donc c'est tant que, comme le dit Béchir, il faudra falloir le publier, parce que c'était formidable les idées qui y sont développées. Ça montre la recherche et la nécessité, en tout cas, de pouvoir réfléchir sur les savoirs endogènes, donc du point de vue de l'Afrique. Et puisque la pensée d'Amadou Martin Mbow, elle relève beaucoup de cela. Comment, à partir de l'Afrique, à partir de cette géographie, comme le dirait Momodou Diouf, à partir de cette géographie, comment cette pensée a pu s'éclore dans le monde entier.
À la page 10 de votre livre, vous rappelez des valeurs humaines, je cite, si prégnantes dans les engagements politiques, sociaux et intellectuels, contre toute forme de domination. Est-ce que vous interpellez la conscience de la jeunesse africaine, Lamine ?
Oui, d'une certaine façon, c'est moi l'interpellation que montrer qu'il y a d'autres sources de valeurs à partir desquelles on pourrait s'inspirer pour vivre en harmonie et pour faire travailler pour la libération ou bien l'émancipation de l'Afrique. Puisque si on regarde bien la trajectoire de Amadou Maktambo, il y a des valeurs qu'il a acquises depuis son enfance qui lui sont restées. Par exemple, la valeur de l'humilité. Je donne dans le livre un exemple prégnant. Quand une dame dont le mari et le fils en Argentine, ancien ministre, ont été emprisonnés par la junte militaire, et quand cette dame débarque à l'UNESCO au niveau de l'accueil et insiste pour voir le directeur général sans vouloir donner son nom, et Amadou Maktambo, lorsqu'il a été averti, il a quitté son bureau pour descendre au niveau de l'accueil. C'est extraordinaire puisque après, je lui ai demandé, mais pourquoi directeur général de l'UNESCO, une dame qui est en bas, qui vous interpelle, et vous descendez, parce que je connais des chefs de service, de petits chefs de service qui ne vont jamais le faire ça. Et ça, c'était extraordinaire, puisqu'il était directeur général de l'UNESCO. Et sa réponse a été simple. Écoute, Lamine, dans la vie, on m'a appris l'humilité, c'est ce que mes parents m'ont appris. Donc, c'est pour dire que cette jeunesse-là, pour pouvoir accompagner le peuple africain, doit avoir ces valeurs-là, telles que l'humilité qu'incarne Amadou Maktambo.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Monsieur Diagne, quelles sont les formes de domination que vous observez sur le continent?
Écoutez, à l'heure actuelle, je dirais que la domination, l'ancienne domination coloniale est en train de s'effacer tout lentement. Nous sommes un continent encore en voie de décolonisation sur bien des aspects. La décolonisation intellectuelle aussi est en voie. Disons que l'Afrique est en train d'inventer ses propres voies, ses propres démarches et également, aujourd'hui, de se montrer dans le monde un partenaire et non plus simplement un continent qu'il faut assister. Alors, cela étant, il y a des dominations internes. Il ne faut pas toujours simplement penser à la domination externe. Il y a des dominations internes qui prennent la forme d'inégalité. C'est une chose à laquelle il va falloir être très attentif dans les années à venir. L'émergence dont on parle tant sur le continent, c'est une émergence qui va s'accompagner d'inégalités très profondes. Et donc, voilà, le combat qui est un combat mondial aujourd'hui contre l'inégalité sera un combat à mener sur le continent africain, parce que c'est un continent qui a vocation à continuer de s'émanciper de la domination extérieure et de l'inégalité profonde qui existe entre le Nord et le Sud. Et l'Afrique est d'une certaine manière le sud du sud, mais il va falloir également être très attentif à des formes de domination qui vont se développer à l'intérieur du continent, parce que les inégalités vont se développer.
Des formes de domination des Africains eux-mêmes sur d'autres Africains?
Bien sûr, oui, parce que les inégalités, vous savez, les inégalités à l'intérieur des nations, ce sont toujours des nationaux qui en dominent d'autres. Et il n'y a aucune raison que de ce point de vue-là, l'Afrique soit logée à une enseigne différente. L'Afrique sera logée à la même enseigne. Et donc, il va falloir, évidemment, combattre les inégalités internes, les inégalités qui sont l'inégalité globale dans le monde entre un nord et un sud, et à l'intérieur des suds, des systèmes d'inégalités qui existent encore là. Prenez simplement une inégalité qui est encore réelle, l'inégalité entre les hommes et les femmes. Le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, sur tous les plans, est un combat qu'il faut mener. Et donc, celui-là est un combat tout à fait interne, contre une domination qui est une domination interne également au continent et aux États.
Lamine Sagna, quel pourrait être le rôle de la jeunesse que vous interpellez dans cet ouvrage pour justement combattre ce genre de domination?
Je l'ai bien dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer l'autre, il va falloir aussi faire sa propre autocritique. Et faire son autocritique, ça demande du courage, puisque c'est critiquer soi-même, c'est-à-dire que pointer ce qui ne va pas chez nous. Et c'est vrai qu'il est impossible de faire nation ou de faire une république si on n'essaie pas de lutter contre un certain nombre d'inégalités. Et donc, je pense que la jeunesse africaine, dans ce qu'elle va mener pour le siècle présent et le siècle, ce qu'elle va léguer pour le siècle à venir, la jeunesse africaine non seulement doit s'inspirer de ce qui a été fait, parce que quand même dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des gens qui ont combattu les inégalités, les formes de domination, mais aussi doit trouver de nouvelles formes de lutte, puisqu'on n'est pas dans les mêmes paradigmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, la lutte, par exemple, ne se mène pas simplement dans le continent africain. La diaspora, la jeunesse de l'Afrique qui est dans la diaspora, a mené des luttes aussi dans les pays de résidence. Et donc, c'est ça, c'est que la jeunesse doit s'inspirer de ce qui a été fait parents, grands-parents, et aussi essayer d'inventer elle-même des nouvelles formes de lutte, en ayant toujours l'amour de l'Afrique.
Vous parlez de la jeunesse africaine, il y a aussi des intellectuels mais qui ne semblent pas aider et qui s'appuient toujours sur des idées rétrogrades notamment. On veut toujours désigner l'Occident ou trouver un bouc émissaire.
Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de taper ou bien de lutter simplement contre l'Occident et pas sur ce qui se passe en Afrique, comme il ne s'agit pas simplement de taper sur l'Afrique et de ne pas avoir des interconnexions avec l'Occident. Autrement dit, je pense que Bachir l'a bien souligné, y compris chez les intellectuels ou beaucoup de jeunes, il y a la violence symbolique, c'est-à-dire qu'une sorte de forme de domination qui agit sur nos structures mentales, qui fait que, par exemple, on pense que des fois, l'Afrique ne peut rien faire, ou bien c'est parce qu'on n'est pas assez courageux, ou bien parce qu'on ne croit pas, on n'est pas assez déterminé pour mener la lutte. Et donc, je pense que cette jeunesse-là, et malgré qu'il y ait, c'est normal qu'il y ait des débats, il y a par contre des luttes idéologiques aussi à mener, puisque de toute façon, on ne pourra pas être tous d'accord. De toute façon, c'est la vérité qui finit par triompher. Et je pense que de ce point de vue-là, quel que soit l'intellectuel africain qui peut être soit au service de l'Europe ou bien de l'Afrique, c'est ce qui est sûr, ce qui est important, c'est les arguments qu'on donne.
Bachir Diagne, il s'oppose au défi de nous réapproprier nos langues, nos cultures et nos religions. On voit ce qui se passe sur le continent miné par la corruption et la haine qui n'ont jamais bâti un pays solide. Comment penser notre futur ?
Alors, vous l'avez dit, le futur que l'on va construire est un futur qui sera fond, qui s'appuiera sur d'abord l'éducation. C'est là que se trouve la fabrique du futur. L'enjeu le plus important aujourd'hui sur le continent africain, c'est dans un monde qui est un monde de connaissances, l'enjeu de l'éducation. Celui-là, il faut le gagner. Parce qu'on considère que la jeunesse africaine est un problème. On dit que démographiquement, nous sommes des sociétés déséquilibrées parce que nous sommes des sociétés extrêmement jeunes où les actifs sont peu nombreux par rapport à une jeunesse importante démographiquement. Mais il faut considérer que cette jeunesse est aussi un avantage. C'est aussi l'avantage de l'Afrique et c'est le futur de l'Afrique, parce que ce n'est pas simplement un poids, cette jeunesse, c'est également une force qui propulsera le continent vers son avenir, à la condition évidemment qu'on donne à cette jeunesse les moyens de mettre en œuvre sa capacité d'innovation. Et le meilleur moyen pour cela, c'est évidemment l'éducation. C'est la raison pour laquelle la crise dans laquelle les systèmes éducatifs sont plongés un peu partout sur le continent est l'une des crises les plus importantes aujourd'hui que nous ayons à affronter. Parce que l'éducation, c'est tout. C'est la fabrique, c'est la matrice même de l'avenir. S'il fallait une seule réponse à votre question si importante et si urgente, s'il y avait une seule réponse, ma réponse serait éducation, éducation, éducation.
Lamine Sagna, vous avez parlé de son étape importante à l'UNESCO, une étape importante dans la vie de Martin Bow. Il a laissé des traces indélébiles, comme on dit. Vous avez souligné cet aspect des objets culturels qu'il fallait restituer à l'Afrique. Quels sont les autres aspects dont vous n'avez pas parlé?
Oh, il y a tellement d'aspects à dire, mais ce qui est important, c'est d'abord, au niveau de l'UNESCO, il a ouvert tellement de champs, par exemple l'histoire générale de l'Afrique, ou bien les mouvements de libération, comment il a contribué à la formation des jeunes comme Thabo Mbeki, en leur donnant des bourses. Il y a tellement de choses qu'il a réalisées au niveau de l'UNESCO, que je pense que ce qui est important à retenir, c'est effectivement l'éducateur. Parce que, comme l'a si bien pointé Bachir, l'éducateur, c'est par l'éducation qu'on peut penser l'avenir. Et donc la question de cette vision-là, c'est pour cela que je disais que le comité scientifique qu'il a présidé a eu un programme excellent, puisque à travers l'éducation, on voit la dimension donc, de l'avenir, donc la vision, mais aussi on voit la nécessité de la participation citoyenne. Donc je pense que ce que Amadou Maktambo a légué au niveau de l'UNESCO, c'est d'abord cette vision-là, à partir d'une éducation qu'il a reçue, et que cette vision-là qui est de l'optimisme. Et parce que lorsque, par exemple, c'est en 1982, il pensait au NOMIC, il parlait des enjeux futurs qui se poseraient au monde si on si on lutte pas contre les déséquilibres. Et je crois que l'histoire lui a donné raison si on voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe à travers Internet. Il fallait être visionnaire en 82 pour penser ça, pour voir ça. Donc je pense que ce qu'il a légué, c'est pas simplement les grands idéaux pour l'équilibre mondial, mais aussi comment surtout croire en soi, être confiant et garder les principales valeurs qui sont celles de l'honnêteté, du courage, de l'humilité et surtout pour la jeunesse africaine, oser, oser, oser.
Monsieur Diagne, vous étiez en train de souligner cette mutation vers un Afrique nouveau, notamment sur l'aspect éducation. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains sont en train de faciliter cela?
Bon, comme on le dit maintenant, l'Afrique, ce n'est pas un pays, évidemment. C'est 54 pays avec des situations très différentes, des problèmes très différents. Il est certain que les systèmes éducatifs, si on prend ce domaine-là, les systèmes éducatifs aujourd'hui sont chahutés un peu partout. C'est une situation qui est une situation assez commune pour les États africains et chacun de ces États, évidemment, essaie de répondre aux défis de l'éducation de la manière qu'il peut. Quels sont ces défis? Qu'est-ce qui fait une sorte de communauté ici des problèmes? C'est le défi démographique. Nous en avons parlé tout à l'heure. L'Afrique est un continent jeune. Et le fait qu'il soit un continent jeune, cela est une réalité dans chacun des 54 ou 55 pays africains aujourd'hui. Cela veut dire donc qu'il faut construire les établissements qu'il faut, il faut former les formateurs. Voilà, un certain nombre de problèmes communs. Avec des solutions qu'il faut envisager, une solution en particulier, et je sais que Lamine Sagna, dans sa réflexion sur l'œuvre d'Amadou Maktambo, parle beaucoup de cela. Le président Amadou Maktambo a souvent insisté sur l'investissement qu'il faut que les pays africains fassent dans le domaine de la science et de la technologie. Pour l'éducation, ça se traduit par une priorité à donner à ce que l'on appelle les STEM, Science, Technology, Engineering, and mathematics. Autrement dit, il faut que les systèmes éducatifs qui, dans beaucoup de pays, sont totalement déséquilibrés, avec une trop grosse majorité d'étudiants s'orientant vers des études littéraires, en étant d'ailleurs de faux littéraires, et une minorité s'orientant vers les STEM, il faut changer les choses de ce point de vue-là. Voilà un défi majeur qu'il faut pouvoir gagner si on veut reconstituer, véritablement reconstruire nos systèmes éducatifs. Le défi majeur, c'est de répondre précisément à la pression démographique en utilisant le virtuel. La pandémie que nous vivons aujourd'hui a montré, nous avons fait de nécessité vertu, comme on dit. Ça veut dire que nous avons massivement investi dans l'enseignement à distance, dans l'enseignement virtuel. Et on a découvert qu'il y avait des avantages, certains avantages à cet enseignement virtuel. En particulier, la pression démographique qui se traduit par la présence physique dans les salles de classe d'une multitude de étudiants qui n'ont pas la place pour s'asseoir, etc., eh bien, on peut résoudre ce genre de problème-là en investissant dans l'enseignement à distance et dans l'enseignement virtuel. Voilà simplement, pour vous le dire rapidement, deux directions dans lesquelles nous pouvons engager la réflexion sur l'avenir de nos systèmes d'éducation. Et encore une fois, sur ce chapitre-là, le président Amadou Maktambo aura été un visionnaire et sera une source d'inspiration.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à nos invités, Souleyman Béchir Diagne, professeur à Columbia University. Merci.
Je vous remercie.
Merci également à Mahamadou Lamine Sagna, professeur de sociologie au Worcester Polytechnic Institute dans le Massachusetts. Merci.
Merci à vous.
Merci à Lionel Onanela Gahima qui a assuré la mise en onde. Eric Manirakis a été avec vous au micro. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. À la prochaine.